Je vous propose de lire un passage dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 4. Nous commencerons au verset 12. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin qu'aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport. Si vous êtes insultés pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De leur part, il est blasphémé, mais quant à vous, glorifié. Mais que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou comme faisant le mal, ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom. Car le temps est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu. Mais s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste est sauvé difficilement, où paraîtra l'impie et le pécheur? Que ceux donc aussi qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes en faisant le bien à un fidèle Créateur. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée, paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant, non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, ni comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne infléchissable de gloire. Voici un texte que nous pouvons lire ou écouter de différentes manières. Et aujourd'hui, je vous propose de le lire, de le regarder dans la perspective de réfléchir à ce que c'est que l'accompagnement pastoral, de ce que c'est que ce ministère de pasteur dont il est question dans l'Épître aux Éphésiens, par exemple, quand on voit que le Seigneur Jésus a donné les uns comme évangélistes, pasteurs et docteurs. On pourrait, par exemple, parler de l'œuvre de Christ et de ses souffrances, et des souffrances qui sont collatérales, qui sont liées, qui sont associées à l'œuvre de Christ, ici dans ce passage, mais on ne va pas en parler. On pourrait peut-être vraiment parler de tout ce que c'est qu'un mauvais chemin, pour que les choses soient bien précisées, hein, que nul d'entre vous ne souffre comme meurtrier ou voleur, mais on ne va pas en parler parce que ça prendrait trop de temps et je voudrais simplement préciser ce sujet d'accompagnement pastoral. Et donc, dans cette perspective, on voit que ce texte que nous avons lu commence par bien-aimer. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les bien-aimés, des gens à qui Pierre écrit, et puis il y a après, j'exhorte, les anciens qui sont parmi vous. Et donc on voit qu'il y a des personnes qui sont différentes, à qui l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, le texte s'adresse de manière différente. Et bien sûr, on va entendre tout cela Et il ne faut pas croire que ce qui est adressé aux anciens ne soit à entendre que de la part des anciens. Et c'est important que ceux et celles qui ne sont pas anciens entendent d'abord ce que c'est qu'un ancien et ensuite qu'est-ce que l'ancien doit faire. Et donc, on voit qu'ici que tout le monde est concerné. Posons quelques préalables, quelques remarques préalables. Celui qui écrit, c'est Pierre. Pierre, on peut dire que dans le groupe des apôtres, de ceux qui ont été appelés apôtres, de ceux qui ont été choisis par le Seigneur Jésus pour faire quelque chose de spécifique, qui ont été mis en avant, Pierre, c'est celui qui faisait partie des trois, Pierre, Jacques et Jean, et qui était toujours le premier. Hein, c'est le premier qui arrive au tombeau, c'est le premier qui pose une question. Et comme souvent, chez ces gens-là qui sont hardis, impulsifs, ce sont ceux aussi qui font des erreurs, qui se trompent. Et Pierre, je pense, c'est quelqu'un dont on peut dire qu'il a beaucoup souffert. Pierre est quelqu'un qui, à qui le Seigneur Jésus a dit « Arrière de moi, Satan ». Pierre est quelqu'un que le Seigneur Jésus a prévenu en disant « Tu vas me nier ». C'est quelqu'un qui a, une fois qu'il a renié le Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus est venu voir pendant le repas qui a été pris à part. Et peut-être que ce rendez-vous pris à part était un peu humiliant pour lui. Pierre est quelqu'un qui, après ce repas, est allé dire au Seigneur et lui, Jean, qu'est-ce qu'il va devenir ? Et le Seigneur lui a répondu, que t'importe, toi suis-moi. Et on pourrait multiplier les exemples qui montrent que Pierre est quelqu'un qui a dû connaître l'échec, la contrariété, finalement se rendre compte qu'il parlait trop vite. Hein, quand le Seigneur a transfiguré sur la montagne, il dit « faisons trois tentes ». Et on a vraiment l'impression, quand on lit le texte, que le Seigneur ne lui répond pas, mais qu'il comprend qu'il n'est pas à sa place. Alors Pierre est quelqu'un qui parle de souffrance, et le mot « souffrance » dans cette première épître de Pierre revient environ 16 fois. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a d'autres mots comme « épreuve », comme qui compliquent le décompte, mais ce mot « souffrance » revient souvent, et on pourrait dire qu'il caractérise cette première épître de Pierre. Si on fait un parcours rapide de cette épître, par exemple, on peut voir qu'au chapitre 1er, Pierre propose que la souffrance que nous vivons soit, je le lis au verset 6, il dit, donc vous vous réjouissez dans ce salut qui est prêt à être révélé pour un peu de temps, et il dit, étant affligé maintenant pour un peu de temps par diverses tentation, nous dit notre version, ou épreuve, c'est le même mot. Et il est dit, si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée, tournée à louange, à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ. Alors, ce mot du verset 7, l'épreuve de votre foi, en grec, dokimazo, qui veut dire éprouver, qui veut dire comme passer un examen. Ce mot montre que la souffrance ici dont Pierre parle, ces différentes tentations ou épreuves, du grec perasmos, qui est un sens tout à fait différent, on est en train de passer quelque chose de difficile, eh bien cette chose difficile est un peu l'examen de notre foi. Quand, voilà une première mention de la part de Pierre de l'épreuve. Et il dit, mais peut-être, il ne le dit pas, mais en parlant de ce qu'il a vécu, la difficulté que je rencontre, c'est l'examen de ma foi. Alors je vais la regarder comme étant l'examen. Quand je vais passer un examen, je ne suis pas forcément rebuté. Je sais que je vais passer un examen, je sais que la difficulté mais donnée à titre d'examen, et qu'à ce titre, alors je la regarde, et puis je le passe avec le Seigneur. Ensuite, il est encore question de souffrance, de différentes manières. Je ne voudrais pas tout montrer, parce que ça serait un peu trop long. Mais par exemple, on peut voir au chapitre 2 et au verset 21, il est dit, c'est à cela que vous avez été appelés, c'est-à-dire, verset 20, si en faisant le bien vous souffrez et vous l'endurez, cela est digne de louange devant Dieu. Et puis il dit, verset 21, car Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Et ce mot « modèle », en grec, c'est littéralement ce qui est finalement sous ce qui est écrit. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, comme si le Seigneur Jésus, par sa vie, avait fait une page d'écriture, et donc nous sommes en train de regarder sous la page d'écriture, vraiment, quelle est la personne du Seigneur Jésus, et c'est le vrai modèle de ce que nous avons à lire. Et puis il dit, un peu plus loin, verset 23, « Quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Alors il montre ici comment le Seigneur Jésus a fait, dans un moment de souffrance particulier, dans un moment d'injustice, quand le Seigneur Jésus, par exemple, a été crucifié, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est-à-dire qu'il a remis à Dieu le Père le jugement. « Pardonne-leur, c'est toi qui as le rôle de juge, la capacité à pardonner, la fonction de pardonner, pardonne-leur. Et c'est toi qui vas rendre justice par rapport à ce qu'ils ont fait. » Et donc, il nous montre ici comment, dans quand nous regardons la personne du Seigneur Jésus, comment est-ce que nous pouvons finalement nous approprier la manière dont le Seigneur Jésus a fait pour vivre l'injustice et pour vivre donc la souffrance. Et donc, Pierre continue avec le chapitre 3 et il va dire au chapitre 3, par exemple au verset 14, il va dire... Si même vous souffrez pour la justice, vous êtes bienheureux. Mais au verset 17, il va dire, il vaut mieux, si la volonté de Dieu le voulait, souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc Pierre est en train de poser un peu des principes et de dire, bon, dans la souffrance et dans la souffrance que j'ai vécue, il y a des choses dans lesquelles je n'ai pas été trouvé... pécheur ou trouvé à côté de ce que j'avais à faire, mais par contre, il y a des choses dans lesquelles je me suis reconnu, moi, pécheur. Et donc, il dit, faites attention à cela. Et puis, au chapitre 4, il est question de cette œuvre du Seigneur Jésus, Christ, donc ayant souffert pour nous dans la chair, armez-vous de cette pensée. Donc, il y a une vie de souffrance, une vie de combat. On a parlé de combat dans le Cantique 112. Il y a un chemin dans lequel il y a effectivement des difficultés. Et Pierre va nous dire maintenant, bien-aimé, il va s'adresser à tout le monde. Et il va dire, bien-aimé, par rapport à ces difficultés, comment est-ce qu'on les regarde? Comment est-ce qu'on les considère? Comment est-ce qu'on considère, par exemple, cette semaine qui commence? On peut dire, il ne fait pas beau? Je me sens seul, je me sens incompris, je viens dans mon assemblée mais j'y suis pas très heureux, j'ai des problèmes familiaux, je suis malade, etc., etc., etc. Et donc Pierre est en train de nous rappeler, quel que soit notre âge, petit ou grand, hein, Pierre est en train de nous rappeler qu'en fait dans le chemin qu'on prend avec le Seigneur, il y a des difficultés, il y a un combat. Il y a un combat qui est un combat tel que dans les créatures que Dieu a créées, il y a même celui qui s'appelle l'adversaire, c'est-à-dire le Satan. Dieu a créé quelqu'un qui a été appelé l'adversaire. C'est-à-dire que Dieu permet que nous soyons dans l'adversité dans la difficulté, dans quelque chose qui nous est contraire. Et le Seigneur Jésus a marché avec cette difficulté. Il est passé de lieu en lieu faisant du bien, mais on peut dire qu'il est passé de lieu en lieu en rencontrant des personnes qui lui ont fait beaucoup de mal. Quand on lit l'Évangile, on est frappé de voir comme souvent les pharisiens viennent à lui pour l'éprouver. Terrible des gens comme ça, hein, qui viennent rencontrer quelqu'un pour voir quels sont les mots qui ne correspondront pas par rapport à la loi qu'il prononcera, etc. Pierre est en train de nous dire, le combat chrétien, la marche chrétienne, n'est pas quelque chose de facile. Alors, quand on le pose comme ça, on a déjà plus de facilité à accepter, en fait, que les choses soient difficiles. Quand on pose les choses comme ça, on va dire, oui, effectivement, la vie chrétienne est difficile. Et ceux qui sourient, ce sont peut-être pas ceux qui ont le moins de difficultés. Ce sont soit ceux qui disent toujours « c'est pas grave », mais là, ils n'ont pas raison. Parce que, effectivement, quelque chose qui n'est pas selon Dieu est grave. Mais ce sont peut-être aussi ceux qui ont posé les choses comme étant difficiles. Et alors, quand les choses sont difficiles, au lieu de dire que c'est difficile, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement faire ce qui relève de leur responsabilité. Quand quelque chose est difficile, quand je suis dans ce qui m'apparaît être une impasse, alors je peux me poser la question, est-ce qu'avec Dieu il y a des impasses? Non. Si je me pose la question, dans cette impasse-là, qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Alors là, je peux toujours trouver, grâce à l'Esprit de Dieu qui me conduit, la porte qui montre qu'il n'y a pas d'impasse. Grâce à l'Esprit de Dieu qui me renouvelle, la puissance pour faire ce que j'ai à faire. Grâce à la présence du Seigneur, à l'Esprit de Dieu qui m'en nourrit, en fait, la motivation pour finalement faire avec la puissance et pour prendre ce chemin que Dieu m'appelle à marcher. Alors Pierre, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui va nous enseigner sur ce qui typiquement est de son expérience. Et je fais une toute petite parenthèse ou une toute petite application pratique. Quand quelqu'un a eu un parcours de vie qui est jalonné de beaucoup de chutes, de beaucoup de souffrances, de beaucoup d'erreurs, de beaucoup de... Eh bien, on pourrait dire que cette personne-là, peut-être comme Pierre, est quelqu'un qui a une richesse, et quelqu'un qui sait précisément là où il ne faut pas aller. C'est la pierre que le Seigneur Jésus a dit, « Paix mes brebis ». Pierre, hein, le Seigneur Jésus donc, est apparu à ses disciples et l'ascension a lieu 40 jours donc, après la résurrection. Donc on peut dire que dans ce temps, eh bien, dans ces 40 jours après la résurrection, le Seigneur Jésus s'est adressé à ses disciples et Pierre avait renié le Seigneur, donc on va dire au maximum une trentaine de jours avant. Et c'est à Pierre que le Seigneur vient dire « Paix mes brebis ». Donc, je voudrais montrer par là que la souffrance que nous pouvons avoir eue dans notre vie n'est pas du tout un handicap, au contraire. Elle est une richesse, elle est un bagage, elle est une expérience. Elle est un lieu que le Seigneur appelle à utiliser, une compréhension des choses, une sensibilité particulière des choses. Et nous avons à nous faire du bien les uns aux autres, parce que justement, là où nous aurons souffert, nous serons à même, comme dit Paul, ayant été consolés dans 2 Corinthiens, de consoler ceux qui ont à être consolés. Alors, entrons un peu dans ce texte qui nous est proposé. Verset 12. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous et qui est venu sur vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Finalement, si on reformule cette expression, être éprouvé, être dans la difficulté n'est pas extraordinaire. Mais le problème, notre problème à tous, je pense, c'est que peut-être que nous sommes convaincus que ce n'est pas extraordinaire, mais dans dans notre journalier, je pense certainement que nous en sommes convaincus. Notre problème, c'est que quand vient la souffrance, notre réaction, c'est de dire « Oh là là !» Et je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait dire « J'aime la souffrance !» Personne n'aime souffrir. Mais par contre, quand on se rend compte que finalement la souffrance, quand on considère bien que la souffrance est le prix, correspond au prix de la construction de la vie que Dieu nous appelle construire. Dieu construit quelque chose, il construit quelque chose avec nous, il nous appelle ses collaborateurs, et il nous appelle à faire quelque chose de difficile, quelque chose qui a une valeur, quelque chose qui coûte. Alors, si on regarde cette souffrance comme le prix de la construction, alors on le fait différemment. Une maman qui accouche, et peut-être qui accouche pour la deuxième fois, elle se souvient des souffrances qu'elle a eues pour son accouchement. Elle se souvient, moi je ne l'ai pas vécu, hein, bien sûr, elle se souvient de je l'ai vu avec ce que ma femme a vécu, de cette, comment dire, de cette tension intérieure qui se produit et qui fait que on a beau être sage-femme et savoir ce qui va se passer après, ça reste quand même inquiétant. Et voilà. Mais comme le dit le Seigneur, je crois que c'est dans Jean 14, la femme, une fois qu'elle a accouché, elle n'a plus cette tristesse, elle n'a plus cette inquiétude. Eh bien, pour nous, c'est exactement pareil. La difficulté que nous connaissons dans l'accouchement des choses, cette difficulté-là, le feu ardent, c'est quelque chose qu'il nous faut regarder comme ordinaire. On peut penser que Pierre a écrit cette lettre environ dans les années 60-62. Dans ces années-là, le César de l'époque, c'était Néron. Et en 64, Néron a fait brûler donc Rome et a accusé les chrétiens. Et donc, il y a peut-être quelque chose de prophétique de la part de Pierre ici, c'est-à-dire qui annonce les difficultés à venir. Mais en tout cas, Pierre nous dit, peut-être avec le regard sur sa vie, peut-être avec des pensées personnelles par rapport à ceux à qui il écrit. Ce que vous vivez, ne le regardez pas comme anormal. Ce n'est pas extraordinaire. Voilà. Ce que vous vivez trouve son sens. Et je fais peut-être une petite parenthèse ou application pratique ou analogie dans le travail que je suis amené à faire. Un jour, je reçois une dame dont le mari est parti et dont elle n'a aucune dame chrétienne et dont elle n'a aucune nouvelle depuis, une vingtaine d'années après. Et elle est partie quand elle était enceinte du deuxième. Et donc, son deuxième enfant, elle l'a placé à la DAS parce qu'elle ne pouvait pas élever les deux. Et elle a élevé sa fille aînée avec, mettons, de la manière dont elle pouvait l'élever. Et puis son deuxième enfant, elle le prenait chez elle de temps en temps, un garçon. Et puis un jour, elle vient me voir et elle me dit, voilà ce qui s'est passé, une chose affreuse, je vais même pas vous en parler. Elle me dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et donc, je lui ai répondu, je ne sais pas, mais je suis persuadé que en Dieu, ça a un sens. Et alors, on s'est quitté comme ça, elle est partie comme ça, et elle ne m'a rien dit de spécial. Mais plusieurs mois après, elle m'a dit, tu sais, cette affirmation, même si elle est générale, peu précise, peu personnelle, m'a beaucoup porté, parce qu'elle m'a dit, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Et donc, ce qui nous arrive d'extraordinaire, cette souffrance, cette difficulté que nous pouvons vivre, en fait, comment est-ce qu'on la regarde? Est-ce qu'on la regarde comme extraordinaire ou est-ce qu'on la regarde au contraire comme quelque chose qu'on n'a pas souhaité, mais comme quelque chose qui est dans notre vie? Verset 13, « En tant que vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin qu'aussi à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport. » Alors je crois que là, il faut peut-être parler un peu du sens des mots. Se réjouir, qu'est-ce que ça veut dire se réjouir? Parce que c'est difficile de se réjouir de quelque chose qui nous atteint et dans lequel on est blessé, on est indigné, on est perdu, on se sent peut-être coupable. Hein, se réjouir. Peut-être une expression qui peut nous éclairer, c'est celle qu'on va trouver en tournant trois pages avant, de la part de Jacques. Au chapitre 1er, au verset 2, où Jacques dit « Mes frères, estimez-le comme une parfaite joie quand vous serez en but à diverses épreuves. » Estimez-le comme une parfaite joie. Ça, c'est une formulation qui est un peu différente. Estimez-le comme une parfaite joie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire que, finalement, se réjouir part de l'estimation qu'on a des circonstances. Par exemple, quand on a un frère ou une sœur qui est un taquin, tellement taquin que ça nous fait pleurer, ça a bien dû t'arriver, non? Hein? Et bien là, en fait, comment est-ce qu'on regarde à ça? Comment est-ce qu'on va réagir, en fait? Soit on peut dire, ça va pas du tout et je vais me plaindre à papa et maman. Soit au contraire, on peut dire bon. On peut dire, ah, il est encore en train de faire l'andouille. Hein, et donc, bon. Mais moi, je vais un peu me dire, ben, finalement, cette fois-ci, ça sera moi qui serai plus sage que lui ou qu'elle. Hein, estimer les circonstances comme quelque chose qui a du prix. C'est-à-dire, estimez-le comme une parfaite joie. C'est-à-dire, finalement, oui, il y a les souffrances du Christ, il y a les souffrances de l'opprobre, il y a les souffrances de la vie, finalement, sur terre, dans laquelle il y a un ensemble de choses qui nous sont difficiles. Mais on peut très bien se réjouir, on peut très bien les regarder, ces circonstances, comme quelque chose qui est dans la main de Dieu, qui a son sens, qui a son prix, et dans lequel Dieu nous appelle à construire, à rebondir, à finalement, à expérimenter quelque chose avec lui, plutôt que de ne pas le vivre. Se réjouir. Verset suivant. Alors, on peut aussi commenter la suite, afin qu'à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport. C'est aussi assez motivant d'entendre que il y a un lien entre ce que je vis aujourd'hui et ce que je vivrai à la révélation de la gloire du Seigneur Jésus, au moment où le Seigneur Jésus va revenir. Hein? La gloire, en grec, doxa, c'est la manifestation. Donc on peut dire que quand Jésus sera dans sa gloire, il sera dans sa pleine manifestation de souverain, de Seigneur, de roi sur Israël et sur les nations. Et donc, quand il va revenir, je lis dans ce verset, « Réjouissez-vous, afin qu'à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport. » Comme si, finalement, tout ce que je sème aujourd'hui, je le retrouverai complètement quand le Seigneur Jésus viendra. Je fais une toute petite parenthèse pour donner un exemple. Il me semble que nous sommes tous héritiers, c'est pas il me semble, c'est j'en suis sûr, nous sommes tous héritiers. Et donc tous ici, enfants de Dieu, sont des personnes à qui Dieu a donné quelque chose. On pourrait dire que Dieu nous a donné un champ. Pas un champ CHANT, un champ CHAMP. D'accord ? À cultiver. Mais quand le Seigneur Jésus va revenir à la révélation de sa gloire, ce champ-là, comment est-ce que je l'aurais labouré ? Qu'est-ce que j'aurais planté ? Qu'est-ce qu'il y aura sur ce champ comme arbre, comme fruit, comme moisson ? Et donc, on peut dire que nous sommes tous héritiers parce que nous hériterons tous de quelque chose, mais par contre que ce qui sera produit dans ce champ, là, sera différent. Il me semble que c'est ça les récompenses que nous aurons à la venue du Seigneur pour régner et l'épouse, l'Église étant là. Alors, réjouissez-vous afin que vous vous réjouissiez avec transport à la révélation de sa gloire. Comme si, finalement, le temps que nous vivons aujourd'hui était et est un temps, finalement, d'expérimentation de cette vie avec de la souffrance, de cette vie avec des choses difficiles que Dieu nous appelle à faire, mais des choses dans lesquelles nous avons, sur lesquelles nous allons avoir un regard juste, un regard, en fait, avec une bonne estimation, estimez-le, comme une parfaite joie. On avance au verset 14. « Si vous êtes insultés pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De leur part, il est blasphémé, mais quant à vous, glorifié. » Alors peut-être, au passage, je rappelle, hein, j'espère que c'est sûr de tout le monde, que dans la version Darby, ce qui est entre crochets n'est pas dans le texte original, mais quelquefois il peut correspondre à ce qu'on appelle des leçons. C'est-à-dire que dans les différents manuscrits, quelquefois, il y a telle expression qui est retenue ou telle expression qui n'est pas retenue. C'est pour ça que le traducteur prend en quelque sorte cette liberté de mettre dans le texte biblique quelque chose, mais en soulignant bien que dans la plupart des manuscrits, il n'est pas retenu. Ce qui est certainement le cas de ce qui est entre crochets. De leur part, il est blasphémé, mais quant à vous, glorifié. Si vous êtes insulté pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux. On peut dire que, dans les faits, je ne sais pas s'il y a ici quelqu'un qui s'estime bienheureux quand il est insulté. Mais je vous propose de faire bien cette différence entre comment est-ce que je peux nommer les choses, les appeler, les décrire, et ce que je peux ressentir. Je peux très bien ressentir, étant insulté, ressentir de la peine. Ressentir une injustice profonde. Ressentir de l'appréhension d'être insulté à nouveau. Mais par contre, dans cette circonstance dans laquelle je suis insulté, alors, je peux très bien dire, mais Dieu est souverain. Dieu a cette circonstance dans sa main. Dieu permet toute chose. Dieu a son plan. Dieu sait ce qu'il fait et de ce fait me dire bienheureux parce que je traverse une circonstance dans laquelle Dieu permet les choses. Je pense que on peut ressentir ce bonheur d'être dans la main souveraine de Dieu d'un côté et de l'autre côté cette tristesse d'être l'objet de l'insulte. C'est un petit peu ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 6, quand il dit « attristé, mais toujours joyeux ». On peut très bien avoir en nous, d'un côté, cette tristesse de voir l'état des choses, et d'un autre côté, le regard, un regard d'espérance, mais un regard juste, en disant « oui, la circonstance que je vis a tout son sens ». Cette circonstance-là, elle sert dans la main du Dieu souverain que je connais, et je la vis. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce verset 14 d'important, on trouve que l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous avec cette conjonction de coordination « car ». Vous connaissez les enfants, hein, « mais où est donc ornicar ?» les conjonctions de coordination. Et donc, c'est important quand on lit le texte, c'est important de savoir qu'il y a quelque chose qui relie, en fait, Hein, car l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut être bienheureux car l'Esprit de Dieu repose sur vous. Autrement dit, on peut dire que pour trouver la ressource, pour voir les choses précisément, il faut l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que parce que l'Esprit de Dieu repose sur moi, alors je peux, moi, comprendre les choses, je peux, moi, prendre le bon chemin. Et on va dire, oui, mais alors comment est-ce que ça se passe, ça, que l'Esprit de Dieu repose sur moi? Je crois qu'il faut préciser un tout petit peu les choses. Dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit qu'ayant cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit, qui sont les arts de notre héritage, Saint-Esprit de la promesse. Et ça veut dire que finalement, dès l'instant où j'ai donné mon cœur au Seigneur, alors Dieu a en quelque sorte un sceau sur moi, hein, comme le roi qui mettait un sceau sur la lettre pour attester que la lettre venait bien de lui. Et donc, je suis marqué, j'appartiens au Seigneur. J'appartiens à Dieu, il est mon Père, je suis son enfant. Et de ce fait, il y a quelque chose qui ne peut pas s'enlever une fois que j'ai été scellé. Mais dans la même lettre, il est dit, mais n'attristez pas le Saint-Esprit de la promesse, Éphésiens 4, je crois que c'est le verset 30. Hein? N'attristez pas le Saint-Esprit de la promesse, hein? Je crois qu'il est dit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne-là, elle est en moi. J'ai la faculté, en fait, de lui laisser la parole, ou au contraire, de le rendre triste et de faire qu'il ne puisse pas s'exprimer. Et donc, l'esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. C'est à ma responsabilité, finalement, j'utilise souvent cet exemple, quand on ferme les volets, la lumière ne rentre pas. Quand on les ouvre, la lumière rentre. Quand on laisse la place à l'Esprit de Dieu, il parle, il dirige, il convainc, il reprend. Et discerner la volonté de Dieu est quelque chose qui est possible, quelque chose qui est proposé à l'enfant de Dieu pour tous les jours. Hein? Alors ça reste quelque chose de vertigineux, de mystérieux, mais c'est possible. Et donc je suis appelé, moi, à vivre, à aller de moment en moment en discernant cette volonté de Dieu. Et là, je comprends que c'est la seule manière dont je pourrais vraiment être bienheureux. Hein? Vous êtes bienheureux car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous si vous êtes insulté. Si je suis insulté, c'est parce que l'Esprit de Dieu repose sur moi que je pourrais comprendre que Dieu est souverain, le réaliser un peu mieux, que je pourrais recevoir de ce Dieu souverain la puissance, en fait, pour aller de l'avant et pour comprendre qu'il rend justice. Verset 15, « Que nul d'entre vous ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou comme faisant le mal, ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. » Alors là, à nous tous, donc les bien-aimés, nous voyons qu'il nous est proposé quelque chose de simple, de discerner la motivation, en fait, de nos actes, ou en tout cas l'origine de notre souffrance. Quand ça ne va pas bien avec quelqu'un, hein, quand par exemple je ne mens pas bien avec papa ou avec maman, hein, quand dans une famille il y a des choses qui se passent mal, quand je ne veux pas aller voir un frère ou une sœur, quand dans mon travail les choses se passent mal, hein, discerner en fait l'origine de la souffrance. Que nul d'entre vous ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou comme faisant le mal, ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. C'est-à-dire que je peux très bien, moi, rester dans cette idée que finalement, voilà, je souffre. Hein, je souffre, par exemple, avec telle personne, je ne peux pas m'entendre. Ça ne marche pas. Hein, de toute façon, j'ai essayé, je souffre. Et donc, garder cette idée-là, j'ai une souffrance. Mais en fait, pourquoi est-ce que je souffre avec cette personne? Cette personne me fait une injustice, d'accord? Et alors? En fait, comment est-ce que je regarde l'injustice? Comment est-ce que je regarde la personne qui me fait l'injustice? Est-ce que, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 6, est-ce que vous ne pourriez pas plutôt accepter l'injustice plutôt que vous faire des procès? Est-ce que, quel est le regard que j'ai sur l'action que je vais faire par rapport à cette personne? Alors là, je me rends compte que ce n'est pas la personne qui me fait souffrir, que c'est moi qui me fais souffrir. Parce que c'est moi qui veux me venger, parce que c'est moi qui veux l'éviter, parce que c'est moi qui continue à la mépriser, à la critiquer, etc., ou à la calomnier. Et donc, ici, Pierre est en train de nous dire, voilà, c'est vraiment important de prendre conscience dans le moment où on le fait, hein, qu'on peut faire mal les choses. C'est important, avec le même esprit dont il a parlé au verset 14, c'est important de discerner l'origine, en fait, de mon action, de discerner ma motivation. Dans le psaume 36, au verset 9, il est dit « Car par devers toi est la source de la vie, et à ta lumière nous verrons la lumière. » Je crois que se placer devant ce Dieu qui est vivant, Élie qui disait « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant », c'est important. Savoir que quand on se place devant Dieu, il se passe quelque chose. Quand on se place devant Dieu, on prend conscience des choses. Quand on se place devant Dieu et qu'on travaille tous les jours à le faire, alors il se passe quelque chose. Et on peut discerner d'où vient le mal, d'où vient le problème. Et je peux dire que dans le travail d'accompagnement pastoral que je fais, c'est l'essentiel de mon travail. Vous avez mal, d'accord. Mais où est-ce que vous avez mal? Où est votre souffrance? Ah, vous avez peur. Et vous avez peur... Vous avez peur de ceci ou de cela, hein, mais pourquoi est-ce que vous avez peur finalement? C'est quoi que vous voulez qu'il ne se passe pas? Ah, vous avez peur parce que vous avez décidé que cela ne devrait pas se passer. Et donc, on comprend que là, la motivation de notre action, elle est complexe en fait. On a intérêt à poser les choses devant le Seigneur et à prendre vraiment conscience que... on peut vraiment gagner et travailler avec ça. Versets 17 et 18. Car le temps est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu, mais s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, où paraîtra l'impie et le pécheur? Alors effectivement, le jugement a commencé par la maison de Dieu. Le jugement a commencé par le jugement qui s'est abattu pendant les trois heures sombres sur le Seigneur Jésus. Le jugement continue par la discipline de l'esprit pour l'enfant de Dieu. Et Hébreux 12 nous dit que si nous n'avons pas cette discipline, nous sommes des bâtards et non pas des enfants, et non pas des fils. Et puis le jugement trouvera son aboutissement au tribunal de Christ, où tout ce que nous avons fait, finalement l'état de notre champ, des cultures et des moissons, sera finalement manifesté et tout ce qui est bon sera retenu pour composer cette robe de la mariée tellement extraordinaire qui seront les actes justes des saints aux noces de l'agneau, où finalement ce que nous aurons fait de bien servira finalement de beauté de l'épouse et de cadeau pour l'époux. Alors le jugement commence par la maison de Dieu, mais le jugement continue et finira par celui des incrédules, hein, au verset 18, et où paraîtra l'impie et le pécheur. L'impie, c'est celui qui n'a pas le sens de la relation à Dieu, qui n'est pas rentré dans une relation retrouvée avec Dieu. Le pécheur, c'est celui qui fait mal. Et donc, ici, peut-être faisons une application pratique. Quand quelqu'un me blesse, comment est-ce que je dois réagir? Quand quelqu'un me blesse, le jugement a commencé par la maison de Dieu. Quand quelqu'un me blesse, comme dit Jacques 1, verset 20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un me blesse, ce n'est pas ma colère qui va me venger. Moi, je ne suis pas appelé à me venger. Quand quelqu'un me blesse, le jugement commence par la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui me fait mal, celui qui reçoit ce qu'il faut de la part de Dieu en discipline, en élévation. Dieu discipline, Dieu élève, Dieu veut faire grandir, Dieu veut faire se relever quelqu'un qui a mal fait. Alors moi, si j'ai cette perspective qui est bien claire, alors quand quelqu'un me blesse, je ne vais pas chercher à me venger, parce qu'en fait, c'est Dieu qui accomplit le fait de rendre justice, le fait de venger. La personne qui me fait du mal, je vais la voir comme celle à qui Dieu, vers qui Dieu rend justice. Et de ce fait, mais pour agir comme ça, il faut vraiment que je pense bien que le jugement a commencé par la maison de Dieu. Il faut que je pense bien que c'est Dieu qui venge, c'est Dieu qui a... Il pensait que finalement la loi n'était pas suffisante pour rendre justice. Donc voilà encore une réalité ici qui nous fait du bien. Et puis au verset 19, que ceux donc qui souffrent, selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes en faisant le bien à un fidèle Créateur. Alors voilà quelque chose de très différent. Je remarque que donc cette semaine, j'ai eu 22 rendez-vous. La semaine dernière, alors on est dimanche aujourd'hui. Donc la semaine dernière, j'ai eu 22 rendez-vous d'une heure. Et je remarque que très souvent, chez les gens qui viennent me voir, soit à mon bureau, soit qui me téléphonent, le problème, c'est qu'ils ne savent pas agir. Ils ne savent pas organiser leur journée. Ils ne savent pas faire le bien. Ils ne savent pas tracer des perspectives dans lesquelles, finalement, ils vont mettre en œuvre la volonté de Dieu. Ils ont du mal à, justement, rentrer dans ce discernement de la volonté de Dieu pour le faire, pour en être satisfait, pour en avoir du plaisir, pour finalement être joyeux de ce qui va se produire, pour être serein, parce que finalement les circonstances sont dans la main de Dieu, pour vivre l'amour, pour ressentir l'amour de la part des personnes qui sont concernées par les choses qu'ils font. Faire le bien. Faire le bien, c'est quelque chose qu'il faut organiser. Il faut organiser sa journée. Il faut... le Seigneur nous appelle à être finalement... avoir un calendrier. Aujourd'hui, demain matin, je me lève à 6h30, 7h, 7h30, peu importe. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais l'organiser? Que ceux qui aussi souffrent, sont la volonté de Dieu, Dieu étant souverain, remettent leurs âmes en faisant le bien à un fidèle Créateur. Voyez comme, finalement, dans ce que nous avons vu, nous avons vu en premier que dans notre chemin, il ne faut pas trop regarder la souffrance. Il faut plutôt regarder que la souffrance, voir que la souffrance a un prix, elle a un sens. On a vu aussi que pour qu'on soit vraiment bien heureux, il faut que l'Esprit de Dieu soit là. Et puis on voit que finalement, dans la souffrance, il faut que ce qui nous fait souffrir ne soit pas finalement charnel, ne soit pas mauvais. Mais dans la mesure où ça, je le mets vraiment dans la mesure où je ne cherche pas à me venger, alors il faut que je fasse un ensemble de choses. Il faut que j'entre en relation avec les gens. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je fréquente l'assemblée. Il faut que je connaisse autant que possible mes voisins, ma famille. Il faut que je rentre dans cette perspective relationnelle. Il faut que j'aie conscience du combat spirituel, faire. Il faut que j'aie conscience, en fait, qu'il y a des adversaires qui sont invisibles, que ces adversaires me parlent, et que, comme le serpent a séduit Ève, eh bien, nous avons à discerner que l'arme de l'adversaire est le mensonge. Et qu'il est important en nous d'affirmer la vérité, agir, faire le bien, commencer à poser les choses. Il est important de servir en attendant le retour du Seigneur. Il est important de mettre de l'ordre dans ma vie. Il est important d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie dans le quartier, de pouvoir connaître, aider, encourager, organiser, etc. Il est important de savoir comment faire le bien, qu'est-ce que le bien ? Donc c'est important d'avoir cette réflexion, et peut-être nous qui sommes les bien-aimés, nous qui souffrons, de se dire, mais finalement, Seigneur, là, dans ma vie, je reconnais que par rapport à tel souvenir, par rapport à telle personne, par rapport à telle circonstance, mais je ne suis pas bien. Et donc, Seigneur, montre-moi où est peut-être le bien qu'il me manque. Montre-moi ce que tu m'appelles à faire. Faire le bien. Et c'est en faisant le bien, en peut-être en ne s'occupant pas de la souffrance, que nous remettons nos âmes à un fidèle Créateur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Souvent, on voudrait vivre la souffrance en la regardant de face, de profil, de dessus, etc. Mais la souffrance dans laquelle nous n'avons pas de responsabilité, nous la vivons. Et en fait, nous voyons comment, éventuellement, le Seigneur l'a fait aboutir. Mais nous, nous faisons le bien, nous faisons autre chose. Ça, c'était les bien-aimés. Et maintenant, il y a des gens qui sont ces anciens. Anciens, en grec, presbyteros, presbytes veut dire homme ou femme âgée. Homme ou femme âgée, on trouve ça dans l'épître à Tite au chapitre 2, c'est deux catégories de personnes, homme ou femme âgée. Et presbyteros, c'est comparatif, c'est plus âgé, mais ce n'est pas possible d'être plus âgé que les hommes et les femmes âgées. Mais c'est comme pour montrer que finalement, il y a dans ce chemin que le Seigneur, une expérience, en fait, qui est utile. Et il y a des anciens, des presbyteros. C'est de là que vient le mot presbytère, qui vont donc avoir un rôle particulier et qui vont ici paître le troupeau. Qu'est-ce qu'il est dit de ces personnes? D'abord, il y en a. Pierre dit, j'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux. Il y en a. Et on va dire, mais alors comment? Et je ne voudrais pas aborder des choses qui relèvent de l'autorité de l'Assemblée locale, hein, du tout, mais simplement réfléchir à qui sont ces gens que nous pouvons aller voir. Il y en a. Dans l'Épître à Timothée, au premier Épître à Timothée, au chapitre 4, et au verset 14, il est dit « Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains du corps des anciens. » Le corps des anciens, le mot grec pour corps des anciens, c'est presbyterion, comme si les presbyteros se réunissaient en fait. Et il me semble qu'il y a un lieu où les anciens se réunissent. Un lieu où, comme il est dit dans qui est ce corps des anciens, une réunion, une rencontre, et il y a un lieu où des personnes, comme Paul le dit aussi à Timothée, au chapitre 3 et au verset 1er, si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. C'est-à-dire qu'en fait, la fonction ou la qualité d'ancien, elle n'est pas octroyée par personne, elle n'est pas donnée par personne. Il est question d'appel du Seigneur et il est question d'aspiration, de réponse en quelque sorte, si quelqu'un aspire à la surveillance. Dans Acte 20, on voit que le mot « ancien » et « surveillant » sont deux mots différents et qui parlent de la même personne. Hein, dans Acte 20, Paul appelle les anciens d'Éphèse et il leur dit « c'est eux que l'Esprit Saint, c'est vous que l'Esprit Saint a établi surveillant ». Mais l'ancien parle de l'expérience, le surveillant parle, le mot ancien parle de l'expérience, le mot surveillant parle de la fonction. Et donc il me semble qu'il y a des personnes qui aspirent à surveiller, qui aspirent à faire du bien, qui aspirent à avoir le soin des personnes, qui aspirent à faire que finalement quand quelqu'un souffre et que si cette personne ne peut pas se retrouver en quelque sorte debout, eh bien qui aspire à être disponible pour que les personnes puissent trouver un secours. Alors, ces personnes-là, qu'est-ce qu'il leur est dit? Paissez le troupeau, c'est-à-dire, paître, c'est quoi? Mettre dans un endroit où il y a de la nourriture, où il y a du rafraîchissement et où on est en sécurité. Paître. Paître. C'est-à-dire, en fait, il faut que l'ancien soit capable, comme le dit d'ailleurs Paul à Tite aussi, capable d'exhorter par un sain enseignement et de réfuter les contredisants. Il faut qu'il soit capable d'enseigner. Et le pasteur, le ministère pastoral, est autant un ministère d'enseignement que le ministère de docteur et que le ministère d'évangéliste. Seulement l'évangéliste, ce qui diffère les trois ministères, c'est que l'évangéliste s'adresse à des personnes qui ne sont pas réconciliées avec Dieu. Le docteur s'adresse à des personnes qui veulent l'entendre pour grandir, et le pasteur s'adresse à des personnes qui souffrent. Et donc c'est un ministère d'enseignement. Le pasteur pourra donner en fait à quelqu'un de se relever, d'autant plus qu'il aura compris comment se relever, qu'il aura compris ce qui relève de la doctrine, ce qui relève de la vérité. Petre, pécé, le troupeau de Dieu qui est avec vous. Cette expression « qui est avec vous ». Je crois qu'on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Regardons ce qui est en face de nous, à côté de nous, vivons ensemble. Et j'insiste sur, d'un côté, ce « bien-aimé ne trouvez pas étrange le pardon », et de notre côté, ce « moi qui suis ancien avec vous et témoin des souffrances du Christ, paissez le troupeau ». Alors, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des personnes qui sont disponibles, de l'autre côté, il peut y avoir des personnes qui souffrent et qui n'ont pas su comment finalement sortir de leur souffrance. Quels sont ces caractères de ces anciens, verset 1er ? Ils sont témoins des souffrances du Christ. Comme si finalement le fait de regarder la vie du Seigneur Jésus, dans ses souffrances notamment, permet de comprendre comment soi-même vivre la souffrance, être témoin, être proche, être dans cette considération attentive qui permet de comprendre certaines choses et de pouvoir les mettre en œuvre. Un témoin des souffrances du Christ et aussi qui est par la gloire qui va être révélée, un peu ce que nous avons vu déjà au verset 14, au verset 13. « Réjouissez-vous afin qu'aussi à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport. » Alors, qu'est-ce qu'il est dit ? Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant, mais non par contrainte. Surveiller, mot grec épiscopos, qui a donné les évêques, hein, les surveillants sont des personnes qui veillent sur, pas des gardiens de prison. Les parents ne sont pas des gardiens de prison, les parents sont des gens qui surveillent, qui portent leur regard attentif sur quelqu'un. Surveiller. Regardez, comment vas-tu? Comment ça va? On a la liberté de se poser des questions simples et de dire, et voilà, etc. Mais effectivement, pour surveiller, il faut entrer dans la surveillance, il faut entrer dans la confiance, entrer dans une vraie relation avec quelqu'un. Il faut aussi une certaine expérience. C'est peut-être pas pour rien que, c'est pas pour rien que dans Timothée 3, il est question de l'ancien qui a élevé des enfants. Hein, et qui tient bien sa maison. Alors, surveiller non par contrainte. Il n'est pas question d'amener quelque chose que l'on va imposer aux autres. Hein, surveiller non par contrainte. Quand quelqu'un dit « je ne vais pas bien » et qu'on peut en parler, on pourra dire « ah bon, tu ne vas pas bien parce que, en fait, tu souffres ». Et quand on parle, on va voir effectivement que la personne souffre en faisant le mal ou en s'ingérant dans les affaires d'autrui. Alors on va pouvoir dire, là, je crois qu'on a avancé sur l'origine de ta souffrance et il y a des choses desquelles tu devrais te détacher, ou vous devriez vous détacher. Mais là, il n'y a pas de contrainte. Surveillant, mais sans contrainte, il faut laisser la personne choisir finalement de faire ce qu'elle doit faire. Mais donc, pas par contrainte, mais volontairement. Il y a ici un autre aspect, qui est certainement même premier dans le texte, c'est que le surveillant n'est pas quelqu'un à qui on va dire « tu vas faire ça ». Hein, le surveillant est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités, en quelque sorte, devant Dieu, et dire « oui, effectivement, il y a un ensemble de choses que je suis appelé à faire, et celles-là, je vais les mettre en œuvre. » Ni pour un gain honteux, mais de bon gré. Et bien sûr, quand on pense à gain, on pense à argent. Mais il peut y avoir beaucoup de gains différents qui sont des gains honteux. Par exemple, quelqu'un pourrait vouloir se tenir sur ce plan de la surveillance parce que, en fait, c'est quand même bien. Hein, on a un poste important. Hein, on va dire oui. Quelqu'un d'autre pourrait faire ça peut-être parce que sinon il se sentira seul. Hein? Ou un troisième pourra faire aussi ça parce qu'il veut contrôler les gens. Ou quelqu'un pourra aussi faire ça parce qu'en fait, il a compris que les choses sont comme ça et il voudrait que tout le monde marche comme ça. Non. Non, non, surveiller, c'est permettre à la personne justement de prendre conscience de cette difficulté et d'en sortir. Pas pour un gain honteux, mais de bon gré. De bon gré parce que je le fais justement par appel du Seigneur. Ni comme dominant sur les héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Donc en fait, ma démarche pastorale ne va pas être de dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, mais avant tout, de comprendre quel est l'enseignement, quelle est la nourriture que le Seigneur donne, et moi je vais être en pratique, et parce que en fait je serai comme ceci et comme cela, alors il sera vu dans ma vie, en fait, que ce que je dis, c'est vrai. Hein, comme étant les modèles du troupeau, et c'est d'ailleurs exactement pareil pour les parents, avec leurs enfants. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne infiltrissable de gloire. Alors, pour conclure avec tout cela, finalement, on voit que d'un côté, il y a des personnes qui sont susceptibles de souffrir, et de souffrir à cause de quelque chose qui n'est pas selon Dieu, et on voit des personnes qui sont appelées à mettre en œuvre quelque chose de la part de Dieu. Et on pourrait dire, mais parmi nous, ces choses existent déjà. Hein? Et quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un sait vers qui aller, alors c'est très bien. C'est très bien. Ces choses existent déjà. Et dans un sens, quand on parle entre nous et qu'on voit un peu les souffrances qui sont exprimées des uns et des autres, qu'on voit des souffrances qui restent et qui restent non abouties, dans lesquelles il y a une souffrance qui est intense et qui pourrait finalement trouver son lieu, alors là, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui puisse être fait. Il faudrait qu'on puisse aller voir ses bien-aimés et puisse dire, mais bien-aimés, est-ce qu'on peut parler de ces choses ? Qu'on puisse poser comme un jalon dans notre vie individuelle comme collective, que quand on dit comment ça va, que ça puisse éventuellement aller un petit peu plus loin que la simple formalité de dire ça va. Qu'on puisse avoir cette réalité devant Dieu de dire, ben oui, alors il y a tel et tel problème. Et est-ce que ça veut dire que tout le monde doit tout entendre ? Non, certainement pas. On pourra peut-être en parler après dans la discussion, si vous voulez. Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit tout savoir ? Non, certainement pas. Est-ce que ça veut dire que, finalement, comment est-ce que cette relation entre les bien-aimés et les anciens peut trouver, comment est-ce que cette relation peut trouver toute sa réalité ? Je voudrais dire peut-être que je crois que autant dans ce qui est enseigné à partir de la parole de Dieu, autant dans ce qui est montré dans ce que nous faisons, il faudrait que nous affirmions qu'il y a des personnes dont l'appel du Seigneur est d'être disponible pour les gens qui souffrent. Il faudrait l'affirmer, il faudrait le dire, il faudrait dire aux personnes qui souffrent, eh bien, comme dit le Seigneur, cherchez et vous trouverez. Ce matin, j'étais à Grange, à Guilherand-Grange, et on a fait un commentaire sur le psaume 23. David, dans le psaume 23, dit « Ma coupe est comble ». Mais pourtant, sa coupe, elle est comble, mais il y a les ennemis, il y a les adversaires, il y a le chemin de la justice. Et donc, on peut dire que dans toutes circonstances, on peut avoir cette coupe qui est comble. Alors, comment est-ce que ces deux réalités, les bien-aimés qui souffrent, les anciens qui sont là peuvent se retrouver. Je crois que là, il faut qu'il y ait une réflexion. Il faut qu'on puisse toujours affirmer donc, dans l'enseignement que nous sommes appelés à être bienheureux, comme on l'a vu ici. toujours affirmé qu'il y a un chemin, en fait. Il y a un chemin pour être bienheureux. Il y a une rencontre, peut-être, nécessaire avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Ici, il est question des anciens, mais le ministère pastoral est un ministère privé, un ministère sensible, un ministère dans lequel je crois que nous sommes tous appelés à réfléchir sur ce ministère, et certainement la sensibilité féminine a peut-être bien un rôle important à jouer. En tout cas, dans mon travail, je travaille avec certaines personnes comme Étienne Roumeas, et j'estime le travail pastoral qu'elle fait, et je crois qu'il y a quelque chose qui est à dire, à poser, et dans lequel aussi on peut parler. Je vais peut-être juste conclure sur la lecture de quelques paroles de Job qui sont parlantes d'elles-mêmes. Job chapitre 26, Job chapitre 20, je suis dans Proverbe. Job chapitre 26, voilà. Où Job dit, en répondant à Bildad, mais en répondant à tous ses consolateurs, « Comme tu as aidé celui qui n'avait pas de puissance. » Aider quelqu'un, ce n'est pas lui dire là où il a mal, mais c'est l'aider à prendre conscience de comment sortir, en fait, de là où il a mal. « Comme tu as délivré le bras qui était sans force. » Bien sûr. Je fais ça, je ne sais pas comment ne pas le faire. Donc, l'important, c'est de savoir comment ne pas le faire. Verset 3, quel conseil tu as donné à celui qui n'avait pas de sagesse ? Donc, là encore, on peut être rapide à montrer à quelqu'un qu'il n'a pas de sagesse. La question, c'est plutôt qu'il vous montre ce qui est juste, plutôt que de s'apesantir sur ce qui est injuste. Verset 3, quelle abondance d'intelligence tu as montré. Autrement dit, Job reproche à ceux qui l'ont accompagné de ne pas comprendre, en fait, les choses. Verset 4, pour qui as-tu prononcé des paroles ? Autrement dit, celui qui veut accompagner, il s'adresse à quelqu'un. À quelqu'un. Ah, il n'est pas en train de lui donner un précis de bonne conduite. Il est avec quelqu'un. Pour qui as-tu adressé des paroles ? Et Paul a pu dire dans 1 Corinthiens 9, je me suis fait juif avec les juifs, grec avec les grecs. Nous avons à adapter notre discours. Et verset 4, de qui est le souffle qui est sorti de toi ? Alors je crois que ça, c'est un bon résumé des choses. Un bon résumé. Pierre voulait insister sur le fait qu'il y a des bien-aimés qui ne vont pas bien. Mais il y a des gens qui aspirent à la surveillance et qui vont rentrer dans une œuvre qui est bonne. Mais avec cette conclusion de Job, finalement, on a quelques pistes sur lesquelles on va pouvoir réfléchir, chacun.